la vie qu'on s'est faite, les histoires d'adoption, le balado qui vous présente des récits familiaux.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec deux invités. On a Patrice Godin, qui est acteur, écrivain, ultramarathonien.
C'est en plein ça.
On a Caroline Fortin, qui est présidente du mouvement Retrouvailles. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être les fameuses retrouvailles en adoption, bien sûr. Je vais commencer avec vous, Patrice. Vous avez écrit un livre dernièrement, « Toutes les vies possibles », qui aborde un peu le sujet de l'adoption, la recherche de vos origines.
Oui.
Est-ce qu'on peut commencer du début, en fait? C'est quoi votre origine et qu'est-ce qui a amené votre famille à vous confier à l'adoption?
Bien, en fait, c'est ça. Moi, j'ai été adopté à 3 semaines. Mes parents, quand je vais dire mes parents, c'est mes parents adoptifs parce que c'est mes parents. Donc, sont toujours vivants. J'ai eu une super belle famille, des super bons parents qui ont été là pour moi. Je suis enfant unique parce que, je suis adopté. Et mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ma mère ne pouvait pas. Donc, moi, ça n'a jamais été, je l'ai toujours su, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a troublé. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a viré à l'envers. J'ai pas jamais cherché vraiment à... C'est jamais moi qui ai instigé vraiment les recherches avant 2016. C'est-à-dire qu'une première fois en 90, c'est ma blonde de l'époque, ma copine de l'époque, qui m'avait dit « Ah, tu devrais faire une recherche... ça serait intéressant. » Puis finalement, les papiers que j'ai reçus des services sociaux de Chicoutimi ne disaient pas grand-chose de nouveau. Ou en tout cas, tout ce qui était intéressant était caviardé, était biffé. Mm. Je ne pouvais rien avoir. Puis rendu là, moi, j'avais 21 ans, 22 ans à cette époque-là. J'étais ailleurs. Là, j'étais étudiant à l'école de théâtre. Je commençais ma vie d'adulte. Fait que, tu sais, c'est comme... J'avais pas la tête à ça. Quand j'ai rencontré Nathalie, ma femme, la mère de mes enfants... Au début des années 2000, là, j'ai eu un questionnement par rapport à mon hérédité, par rapport à les maladies héréditaires que je pouvais avoir, tout ça, parce qu'on voulait avoir des enfants. Puis là, ça m'a un peu plus travaillé. Mm. Mais encore là, j'ai pas fait de demande. Et ce qui me travaillait aussi, c'est de savoir est-ce que j'ai des frères, des sœurs, parce que ça, j'en ai pas dans ma vie. Puis ça, bien, à un moment donné, ça s'est mis à me travailler un peu. Et quand la loi a changé, je pense en 2015-2016?
Ça a été adopté en 2017. En
fait. Bon, c'est ça.
On parle de la loi 113.
Oui, la loi 113, ouais. Et puis ça a été mis en vigueur en 2018 et 2019.
Bien, c'est ça. Alors moi, quand cette loi-là est passée, quand ça a changé, j'ai fait, c'est le moment ou jamais.
Ouais, c'est
là, je vais refaire ma demande, puis là, ils vont être obligés de me donner le nom, à moins que ma mère biologique ou mon père biologique, là, je savais pas... quel était le background, ait fait une demande de non-divulgation. Je pense que c'est à ce moment-là que tu n'as aucune information. Et j'ai complètement oublié ça après, en me disant, bof, il va tellement avoir de demandes, ça va arriver en 2030 qu'ils vont me rappeler pour me dire. Et finalement, à l'automne 2020, en pleine pandémie, en septembre, j'ai reçu un téléphone, puis c'est une travailleuse sociale à la retraite, en fait, qui donnait un coup de main dans les dossiers, qui m'a appelé pour me dire « On a le nom de votre mère biologique. » Et moi, j'étais à ce moment-là en écriture d'un roman. Et c'est ça, comme on était dans la pandémie, puis tout ça, j'arrivais pas vraiment à écrire mon histoire. Je jonglais avec plein d'affaires, puis ça fonctionnait pas. Puis là, cette affaire-là est arrivée, la pandémie, un questionnement sur mes origines, tout ça. Donc, ça a donné toutes les vies possibles. Le livre s'est écrit par petits morceaux comme ça, chaque matin, sur un peu des réflexions que j'avais par rapport à ma vie passée, ma vie actuelle, ce qu'on traversait un peu tout le monde. Bien, pas un peu, ce qu'on traversait tout le monde.
Ouais.
Puis ma mère biologique aussi.
Est-ce que... parce que quand on parle de retrouvailles, on entend toutes sortes de choses. Et une des choses qu'on entend, et je pense que c'est bon d'aborder, c'est le fait qu'on dit, quand une personne adoptée ressent le désir de partir à la recherche de ses origines, de faire des retrouvailles, c'est parce qu'il y a un problème avec sa famille adoptive, en fait. Est-ce que vous avez entendu ce discours-là dans votre entourage ou même dans votre famille?
Moi, j'ai jamais entendu de points négatifs par rapport à mon adoption. J'avais entendu à un moment donné d'un party X, j'avais rencontré quelqu'un de mon âge, un gars de mon âge qui, lui, il voulait absolument rien savoir de ses parents biologiques. Là. C'était comme, oui, je veux absolument, tu sais, vraiment comme presque violent. Là,
OK, t'sais. Il y a une colère.
Okay. Oui, lui, il avait une colère par rapport à ça. Moi, j'ai jamais eu ça, je l'ai toujours su. Ma mère m'a encouragé adolescente, tu veux pas faire des recherches, tu veux pas... Je pense qu'elle elle était curieuse aussi, mais moi, ça, à l'adolescence, ça me dérangeait pas. Puis dans ma famille, j'ai jamais subi d'intimidation par rapport à ça. Je me suis jamais fait écœurer, il n'y a jamais rien eu de négatif, moi, pour moi, dans le fait d'être adopté, sauf que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est ça, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que moi, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, cette espèce de sentiment d'abandon-là que j'ai pas ressenti à l'enfance, mais que j'ai porté beaucoup à l'adolescence et à l'âge adulte, encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est un sentiment d'abandon, un sentiment de pas être aimé malgré tout ce que j'ai pu recevoir, malgré ma famille actuelle, mes trois filles, ma blonde, tout ça. Mm-hmm. J'ai encore ce sentiment-là, j'ai encore cette espèce de... Moi, j'ai toujours décrit ça un peu comme un trou dans le cœur.
Ouais.
Puis en parlant de mon histoire, en parlant avec d'autres gens qui ont été adoptés, ben c'est quelque chose, moi, qui revient. Moi aussi, j'ai ça. Il y a des gens qui n'ont pas été adoptés qui l'ont aussi, là.
Ouais, ouais.
Mais ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le discours que j'ai.
Ouais, je suis un peu d'accord, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Les personnes sont comme à différents niveaux. Là,
ouais,
on
oui.
s'entend, parce qu'il n'y a pas une situation pareille, il n'y a pas de personne pareille, mais c'est ça, une insécurité affective. On a ce besoin-là de savoir qu'on nous aime.
C'est
difficile à expliquer, puis on a beau être aimé. Là. Moi aussi, j'ai été dans une famille merveilleuse. J'ai un chum merveilleux, j'ai des enfants merveilleux. Je ne manque pas d'amour. Là.
Ouais.
Sauf que on dirait qu'il faut toujours aller une chose plus loin pour ce sentiment-là, cette petite insécurité, en fait, qui est probablement due là, au bris du lien d'attachement à la base, là, à la séparation de la mère et de l'enfant. Puis ça, ben c'est ça, ça se ressent à différents niveaux. Même les parents adoptifs, je veux dire, regarde, dites que vous avez été choyés, puis moi aussi, puis plusieurs sont comme ça. Donc, pour revenir à ta question, la personne adoptée, je veux dire, en général, ne cherche pas ses origines parce que ses parents adoptifs ne l'ont pas aimé. Là.
En général.
Au contraire, en général.
Oui, je veux dire,
C'est ce besoin viscéral de savoir d'où on vient. Moi, je compare ça à un arbre. Là. C'est un arbre, ses racines, ils sont tout croches, tu les as pas. Eh bien, il va peut-être pousser un petit peu par là ou un petit peu par là. Mais l'être humain, c'est la même chose. Il faut, à un moment donné, se sentir, excusez l'expression, mais grounded
enraciné quelque part. Appartenir.
Donc, puis ça n'a rien à voir avec les parents adoptifs. C'est ça, il y en a plusieurs qui ont peur du conflit de loyauté.
Oui.
Envers les parents adoptifs et les parents biologiques qui sont tiraillés entre les deux, fait qu'ils vont attendre que les parents adoptifs soient décédés. Mais non, il n'y a pas de... Tu vois, en général...
Non, puis ça, s'il y a une séparation qui se fait... C'est sûr que... Ben moi, j'ai l'impression, si, mettons, j'avais pas eu une belle enfance, j'avais eu une enfance des bons parents ou une enfance difficile, probablement que j'en aurais voulu à ma mère biologique, parce que là, de faire « Pourquoi tu m'as pas gardé? Tu m'as abandonné, puis je me suis retrouvé avec une gang de tout croche. » Mais c'est pour ça que je pense que, généralement, les enfants adoptés tombent dans des bonnes familles, parce que c'était pas... Je pense pas qu'on était adopté de même à gauche, à droite, devant...
Non, en général, non, là, mais...
Mais c'est sûr que...
Il y a de tout.
Il y a tout le
temps des craques, hein?
C'est ça, exactement.
On peut pas dire que tout le monde a été bien adopté,
non.
Là,
mais Patrice, est-ce que, justement, de faire les retrouvailles. Puis tu sais, on parle de retrouvailles. Les retrouvailles, c'est un moment, mais tu sais, ça, oui. Il y a les post-retrouvailles, oui. Puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça a quand même changé des choses par rapport à votre façon de voir votre famille adoptive ou dans la relation avec votre famille adoptive? Ou comment que ça se...
Non, parce que... Ben, en fait, ce que ça a changé, c'est moi, une des peurs que j'avais en étant un peu en recherche, c'était un deuxième abandon, dans mm-hmm. le sens où de me faire dire, ben on a retrouvé ta mère, on sait c'est qui, on y a parlé, elle veut rien savoir.
Ouais, comme ça, comme mais, ça arrive.
Comme ça arrive. Sauf que ça, c'était plus jeune. Là, j'ai retrouvé ma mère, j'avais 53 ans, 52, 53. Là, je suis fait fort, je suis solide. Oui, ça m'aurait fait de la peine, j'aurais trouvé ça plate. Mais j'étais prêt à le recevoir. Sauf que quand j'ai parlé avec... C'est pas arrivé, là. Au contraire, elle, pour elle, c'est un cadeau de la vie, là. Elle va avoir 80 bientôt. Puis elle a toujours vécu avec le souvenir de son enfant qu'elle a donné, tu sais. Qu'est-ce qui arrive avec mon enfant? Qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il y a eu une belle vie? Est-ce qu'il est heureux? Elle, ça a tout été ça. Ça fait que quand j'ai parlé au téléphone avec elle la première fois, c'est une anglophone, c'est une américaine, elle vit au Canada, mais elle est américaine, elle parle pas français. On a parlé au téléphone, puis la première chose qu'elle m'a dite, une fois que moi je l'ai appelée, puis elle a dit, je veux juste te dire que je t'ai jamais oublié, je t'ai toujours aimé, puis à tous tes anniversaires, j'ai pensé à ça. Puis ça a vraiment réparé, pas réparé, mais ça a vraiment apaisé le fameux la blessure, trou que je parlais, ouais. L'espèce d'abandon. C'est venu comme répondre à la question que je me posais. Pourquoi elle m'a... C'est parce qu'elle m'aimait pas? C'est parce qu'elle me voulait pas? C'est parce que... Là, après ça, j'ai tout eu l'histoire en détail, mais ça a fait comme... OK, elle m'a... Puis moi, j'avais pas de jugement. Elle avait peur de ça aussi. Puis tout de suite, je l'ai rassuré. J'ai dit, moi, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Nos vies sont... Moi, j'étais un peu... Je suis pas bouddhiste, là, mais j'essaie d'être assez dans l'instant présent. Puis quand c'est fait, puis il faut... Faut continuer d'avancer. Faut regarder en avant. Faut pas gratter les vieux bobos. Puis tout ça, fait que là, c'est fait. Elle m'a mis en adoption pour les raisons qu'elle avait, qui étaient de bonnes raisons. Puis je sais même pas s'il y en a des mauvaises, là. Je suis pas allé là, mais... Puis j'ai fait ma vie, puis elle a fait sa vie. Puis là, ben là, 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 là... Il y a une force X qui a fait qu'on s'est retrouvés.
Mais oui. Mais dans le fond, c'est quand même important de souligner que sans la loi 113, peut-être aussi que cette rencontre-là n'aurait jamais eu lieu. Bien. Vous n'auriez pas connu votre sœur non plus, non, biologique.
Ça, j'ai ma demi-sœur biologique. Oui,
je le souligne parce que c'est quand même beaucoup grâce à Caroline au mouvement Retrouvailles qui ont travaillé fort pendant des années pour faire reconnaître ce besoin essentiel et ce droit-là, finalement, à savoir qui on est, d'où on vient. Caroline, vous avez des milliers de dossiers, des milliers d'histoires de retrouvailles, belles, moins belles, etc. Je pense que chaque histoire... Il y a de tout, c'est ça, exactement. Il y a de tout. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à changer pour pouvoir mieux accompagner les personnes adoptées qui veulent faire des retrouvailles ou même les parents biologiques?
Bien, en fait, bon, c'est sûr que nous, au Mouvement Retrouvailles, on offre l'accompagnement, mais c'est pas tout le monde qui vient vers le Mouvement Retrouvailles. On peut pas les accompagner tous, là, au même niveau. Je veux dire, il y en a qui ont des besoins beaucoup plus profonds. Bon, tu sais, que les blessures sont vraiment profondes, puis... Bon, en tout cas... Mais nous, on peut le faire, mais on a une certaine limite, mais ça serait bien que le service antécédent Retrouvailles des CIUS puissent accompagner plus longuement les personnes. Parce que c'est beau, on donne le nom, on fait le contact, puis après ça s'arrête.
Non, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de service après. Là. Bon, il y a des gens qui viennent nous voir, mais il y en a qui ne viennent pas parce que, un, ils ne savent pas qu'on existe, pas, deux, ben ils pensent qu'on ne donnera rien. Mais des fois, juste d'écouter quelqu'un, juste d'échanger avec cette personne-là, ça fait du bien. Puis... Au Mouvement Retrouvailles, ben les gens qui sont là, ce sont tous des gens qui ont vécu les retrouvailles, soit en tant que personne adoptée, soit en tant que parent biologique. Et on a quelques parents adoptifs aussi. Donc, on essaie là, de pairer ou les gens ensemble. Disons que depuis la loi 113, bon, il y a eu la pandémie, tout ça, là, ça a été plus, ça a été plus complexe. Mais avec la venue de la loi 113... On a fait énormément de retrouvailles. On parlait de ta sœur. Excuse-moi, je
trouvais ce correct. Oui.
On a eu beaucoup, beaucoup de retrouvailles de fratrie.
Mm-hmm.
Parce que, bon, toi, tu as eu la chance, ta mère est toujours vivante, mais plusieurs sont arrivés face à des décès. Et là, après ça, bien là, on veut chercher la famille, on veut savoir, on veut avoir une photo de notre mère, on veut avoir une histoire de vie, on veut savoir des antécédents médicaux. Donc, on se tourne vers la famille. Puis ça, bien non plus, les CIUS ne l'offrent pas.
Mm-hmm.
Donc là, les gens viennent vers nous ou, avec l'ADN, vont faire leur démarche tout seul à ne pas faire, mais je prêche pour ma paroisse, mais non, je pense que c'est important que ce soit fait par des personnes neutres
mm-hmm.
et qui ont l'expérience de le faire, mais on fait beaucoup, beaucoup, on a fait beaucoup, beaucoup de retrouvailles justement de fratrie, et en général, ça va très bien, là.
Mm-hmm.
Un coup, l'effet choc passé, ouais. parce qu'il y en a plusieurs qui ne le savent pas.
Ouais.
Je ne sais pas dans ton cas, le ouais, spectateur le savait, mais...
Est-ce que vous étiez un secret de famille?
Ce qui était particulier, c'est que, bon, moi, j'ai toujours voulu avoir une sœur, c'était ça, je voulais pas un petit frère, je voulais avoir une petite sœur. Pourquoi, je sais pas pourquoi c'était ça, mais c'était ça. Puis elle, ma demi-sœur, qui a 4 ans de moins que moi, elle a toujours voulu avoir un grand frère.
Ah ouais.
Fait que finalement, on savait, mais moi, je le savais pas. Elle l'a su par sa mère à 13 ans.
OK.
Et... elle a demandé à sa mère de faire des recherches. Sa mère, elle s'était faite peut-être mal conseiller quelqu'un qui avait un avocat qui avait dit que c'est compliqué pour les parents biologiques. Je sais pas si c'est vrai ou...
Non.
Ben, en tout cas, là, cette partie de l'histoire-là m'appartient pas. Ça fait que je peux pas aller enquêter là. Mais après ça, ma demi-sœur en a reparlé autour de quand elle a eu 22, 23 ans. Puis encore là, c'était je pense. Puis ma mère, elle voulait pas aussi... Elle savait pas, tu sais, la peur de dire peut-être qu'il sait pas, puis que là, boum, sa mère, peut-être qu'elle aussi avait le rejet, tu sais, de déranger, le rejet, tout ça. Fait que ces questions légitimes-là, c'était peut-être plus ça que finalement l'avocat.
Bien, en effet, parce qu'au début des années 80, c'était plus complexe.
Bien, c'est ça.
Ça, on s'entend. Bon, oui, ça, je suis d'accord.
Ça, autour de. Ouais. Parce que, tu sais, ça, 13 ans. Ça devait être autour de 85.
Ouais, c'était un peu plus...
plus compliqué. Et ma demi-sœur, elle pensait que son père ne le savait pas.
OK.
Que sa mère...
L'existence, oui.
Et ce qui est très, très drôle, c'est que elle a un groupe d'amis, filles, très proches depuis très longtemps, puis elle leur disait, quand je vais retrouver mon frère, je vais faire un gros party.
Oh wow, OK, fait que vous existiez vraiment. Là,
pour... Oui, elle était convaincue qu'elle allait me retrouver un jour.
Wow.
Mais elle attendait que son père décède parce qu'elle pensait qu'il savait.
Mmh. OK.
Et finalement, quand moi j'ai retrouvé ma mère, bien là, ma mère, elle a dit, puis j'ai retrouvé mon fils, m'a retrouvé, puis tout ça. Puis là, elle a su que son père le savait. Son père, il avait jamais dit qu'il le savait. Il y avait comme... Et là, il y a eu comme une espèce de flottement où je me disais, OK, elle n'est pas contente.
Mm.
Que je sois réapparu parce qu'il y avait comme une espèce de silence radio. Mm. Moi, je lui ai écrit, avec la permission de ma mère, j'ai écrit pour lui dire, regarde, j'ai expliqué le contexte pour pas qu'elle ait peur de que je vienne là pour vous prendre quelque chose,
mm-hmm.
que ce soit matériel ou affectif. Wow, ouais. J'étais pas là, j'étais pas comme une sangsue qui débarquait et qui venait tirer du jus. Là.
Ouais.
C'était juste, je faisais comme... Puis j'ai fini en disant, j'ai toujours voulu avoir une sœur, puis juste le fait de savoir que tu existes, ça me prend heureux.
Mm.
C'est à toi. Puis là, elle a comme piouté l'affaire avec... C'était plus l'affaire avec son père, sa mère, l'espèce de flou qu'il y avait, parce qu'elle attendait vraiment que son père décède
ouais.
pour entreprendre les recherches.
Quand même.
Puis finalement, ben on l'a eu, le fameux parti.
mais est-ce qu'on sait pourquoi son père n'en a jamais parlé à sa fille?
Ben non, parce non, que c'est jamais venu sur c'est ouais. jamais venu sur le sujet. Puis je pense que ma mère aurait pu lui dire que son père le savait. Ça s'était pas dit.
Des fois, c'est ça. Des fois, c'est un peu tabou. Il y a oui, des malaises.
Le malaise, peut-être aussi.
Ouais.
Le,
ouais, c'est
le
quand
fait...
Même...
Le père de ma sœur, Ian, le mari que je connais, qui est super, qui est un super monsieur, puis super gentil. C'était un policier militaire, il était souvent parti. Ça fait que ma mère et ma sœur ont beaucoup été seules.
Mm-hmm.
Et comme ma mère est américaine, ben ses parents, sa famille, c'est tout aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui.
Donc, ils étaient souvent seuls, puis là, ils sont promenés un peu à travers le Canada parce que. Dû au fait de la carrière militaire de Ian, mais ils sont installés en Colombie-Britannique depuis très longtemps. Donc, il y a peut-être ça aussi. Elle en a parlé à un moment donné avec sa fille, il était seul, Ian n'était pas là, il est revenu, c'était pas quelque chose. Puis là, ben, tu sais, un enfant de 12-13 ans qui apprend ça, puis là, son père, tu sais, comme j'imagine, tu vas pas voir papa, hey, papa, papa, tu savais-tu que maman. Il y a toute cette espèce de ouais. Une espèce de voile de silence qui s'est installée. En fait, je pense, de mauvaise communication, ouais. Simplement. Là, c'est...
Moi, j'aurais une question par rapport aux retrouvailles, justement. Est-ce que vous avez senti, à un certain moment, un besoin d'être accompagné par un professionnel ou ça a été fait vraiment avec votre entourage proche?
Ça a été fait avec mon entourage. Moi, je suis... je fais pas ça. Ma blonde me chicane parce que moi, je suis genre... je serais le genre à me couper puis à me recoudre, là, tu sais. Fait que non, j'exagère un petit peu, là. Fait que j'ai une petite tendance, puis c'est peut-être c'est pas la bonne façon, personne. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. ne faites pas comme moi. Mais je m'arrange souvent tout ça.
Ouais.
Mais là, je me sentais bien solide là-dedans. J'étais vraiment pas... Puis, tu sais, j'ai ma femme, ma blonde qui est là, qui est avec moi. J'ai mes enfants, mes parents, tu sais. Je me sentais pas mal pris, je me sentais pas coincé. L'histoire que j'avais de ma mère, puis tout ça, ce que la travailleuse sociale m'avait donné comme renseignement, faisait que, OK, c'est une famille comme nous autres, on est au même niveau, tu sais. Puis quand on s'est rencontrés, premièrement... Ma sœur puis son mari nous avaient donné rendez-vous dans une terrasse parce que ma mère habite dans l'appartement en bas de chez ma sœur.
Okay.
Ils ont une grosse maison, puis ils habitent dans je dirais pas le sous-sol, là, ils habitent dans c'est un appartement. Ils habitent là. Et ils voulaient me rencontrer avant pour premièrement qu'on se voit, qu'on prenne contact, puis après ça, me parler un peu de ma mère, parce qu'elle est malade, puis comment elle va réagir, puis comment elle est, puis... Et quand on s'en allait les rejoindre, nous autres, on est arrivés en avion la veille. Bon, après ça, on a voyagé, hein? On a loué un Airbnb. Puis après ça, on est allé rencontrer ma soeur et son mari. Bien, en s'en marchant, ma blonde a dit, je suis tellement nerveuse, toi, t'es-tu correct? Puis moi, j'étais super relax. J'étais vraiment très, très relax. J'étais fait, non, j'ai zéro inquiétude. J'ai zéro stress. Je suis vraiment... Même que je me disais, suis-tu normal?
Oui, c'est quand même pas rien.
Très calme.
Ouais.
Et quand j'ai vu Heather, l'autre bord de la rue, on s'est regardé, on s'est envoyé la main, les deux, on s'est mis à pleurer instantanément, on s'est pris dans nos bras. Puis après ça, on s'est assis sur la terrasse, puis c'est comme si on s'était toujours connus. Il n'y a jamais eu de malaise.
Malaise, oui.
Ça n'a pas été en anglais, ils disent awkward. Zéro. Puis là, après ça, quand on est arrivé chez eux, bien. Ma mère, c'est ça, était dans le salon avec son mari puis les enfants de ma sœur. Puis elle m'attendait, mais elle savait pas quand est-ce que j'allais arriver. Puis là, ben, je suis rentré dans la maison puis j'ai vu ma mère. Puis elle m'a vu puis on s'est pris dans nos bras. Puis encore là, le contact a été
naturel.
Ouais.
Est-ce que c'est un lien qui perdure? Tu sais, des fois. Les personnes restent en contact un petit moment, quelques mois, puis retournent à leur vie, mais le contact se...
Oui, c'est resté. Nous autres, on est allés, ma blonde et moi, on est allés en octobre 2021, il y a un an exactement, parce qu'on a comme une fenêtre entre deux vagues de pandémie. Là.
Ouais.
On a pu s'envoler là-bas puis aller les voir. Ensuite, au printemps... ma sœur puis son chum puis ses enfants sont venus sur la rive sud et on a passé une semaine ensemble avec ma mère elle peut pas voyager là elle est pas assez en santé pour voyager et c'était la fête de ma sœur les 50 ans de ma sœur début mai alors moi je suis allé arranger avec son mari je suis allé là-bas, faire une surprise. Elle savait pas que j'étais là, puis elle a ouvert la porte du camion, puis j'étais en arrière. Fait qu'on garde contact, on s'écrit. L'affaire qui est plate, c'est la distance. On est quasiment coast-to-coast. Ouais, c'est plus complexe.
Heureusement, il y a Messenger.
Il y a Facebook. On s'envoie des messages. On se promet de faire de quoi. Nos enfants, ils grandissent aussi. Là. Ils se sont rencontrés, en tout cas. Mm-hmm. Parce que Abby puis Brennan... ils n'ont pas de cousins et cousines.
Okay.
Il n'y en a pas du côté de, de, de Mike, puis du côté de Heather, ben c'est tout aux États-Unis, ouais, ils les connaissent ça. Pas, puis tout ça. Ouais. Fait que là, ils ont un oncle, une tante, puis ils ont trois cousines.
Parce que, tu sais, des fois, on voit un décalage, tu sais, la personne adoptée sans un décalage entre où elle a grandi, puis d'où elle vient. Est-ce que c'est quelque chose que...
Oui, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez... je veux dire assez régulièrement. Moi, j'appelle ça... c'est un peu le choc des valeurs. Mm-hmm. Tu sais, tu disais, bon, sa famille, notre famille, on était... Tu sais, c'était des familles similaires, tout ça. Mais des fois, c'est pas ça du tout.
Non, oui, c'est ça.
Puis ça, ben des fois, ça peut causer, effectivement, mm-hmm. là, des frictions ou des... Je dirais pas des malentendus, mais tu sais, un malaise. Autant d'un côté comme de l'autre.
Mm-hmm.
Tu sais, je vais donner un exemple. Une personne adoptée a été dans la misère toute sa vie, puis elle rencontre une famille là, super aisée, tout ça du côté biologique. Elle peut être mal vis-à-vis ses origines. Et l'inverse aussi. Les autres peuvent dire, ben justement, tu disais, c'est qu'est-ce qu'elle vient chercher?
Mm-hmm.
Ouais. Du matériel, elle vient-tu me chercher de l'argent? Et vice-versa, la personne adoptée qui a été dans un milieu soit à l'aise ou, on va dire, standard, là,
mm-hmm.
et que son milieu d'origine est moins jojo, ben des fois, ça peut créer des frictions, justement, avec les personnes retrouvées. Parce que, tu sais, on sait bien, on regarde de haut, elle a été élevée dans...
Non,
ça.
Ouais,
puis c'est pas ça, mais mm. c'est des petites choses, des fois, là, qui peuvent... Ça, ben c'est bien d'en discuter. T'sais, tu parlais... t'es pas allé chercher d'aide, puis c'est bien correct, t'en sentais pas le besoin, mais tu semblais être bien accompagné.
Oui, j'avais...
T'sais, je veux dire, bon, ton conjoint, tes enfants, ta famille,
moi,
tout ça.
Moi, j'ai avec mes enfants,
c'est important,
ma blonde,
d'en
on a
parler.
Vraiment une communication, on
c'est
se discute,
ça.
Là.
Mais il y en a qui n'ont pas, là. T'sais, moi, j'entends souvent dire, ah, ben écoute, moi, j'en parle plus à ma famille, mm-hmm. je suis capable de m'entendre parler, là.
Ah ouais.
Fait que, tu sais, ça, on l'entend souvent, tu sais. Ou, j'ose pas en parler, ou, j'ai pas personne dans mon entourage qui comprend, puis... Fait que c'est important de, quand on parle d'accompagnement, faut aussi être prêt quand on entreprend ces retrouvailles-là parce qu'on sait jamais
non,
à l'autre
ça.
Bout, là, autant du parent biologique que l'adopté. Mm-hmm. On ne sait pas ce qu'on va retrouver l'autre côté.
Oui, c'est vraiment une boîte de Pandore.
Absolument. C'est... Moi, je dis un coffre au trésor au bout, mais on ne sait juste pas ce qu'il y a dedans.
Ouais.
Ah, bon, puis au niveau des parents adoptifs, ben c'est sûr qu'eux aussi, on craint quand on. Sans être négatif, mais c'est normal qu'il y ait une crainte de savoir, ben mon enfant, c'est qui? La personne qu'elle va retrouver mm-hmm. de l'autre côté, tu sais. On a beau... les parents adoptifs ont beau avoir été ouverts toute leur vie, mais quand ça arrive...
Et on sent que...
Quand ça arrive, tu sais, moi, je prends mon exemple à moi, quand j'ai appelé maman, puis je lui ai dit... parce que moi aussi, maman, papa, c'est pour mes parents. J'ai dit, ben c'est fait, j'ai rencontré Pierrette. Il y a eu un petit moment de silence.
Mm-hmm.
Là, je fais, maman... Oui. Mais tu sais, on
a senti... Moi aussi, j'ai
senti. Mais ça a été correct. Je veux dire, après ça, on en parlait, tout ça. Bon, ils n'ont pas eu la chance de se rencontrer, mais ça, c'est autre chose.
Oui.
Mais, tu sais, moi, ça l'a comme, je dirais même, renforcé mes relations avec mes parents adoptifs.
OK. Est-ce que ce sera la même chose pour vous?
En fait, moi, j'ai senti le tu sais, ma mère était très... très volontaire à ce que, tu sais, elle voulait vraiment que je les retrouve, tout ça, puis même souvent, je dis, arrête, tu sais, ça m'intéresse pas. Mais quand ça s'est fait, oui, j'ai senti, quand j'ai dit que j'avais contacté, puis tout ça, j'ai senti un petit...
Un petit pincement? Un
petit pincement, une petite affaire qui... Même si elle me dit le contraire,
mm-hmm.
j'ai senti, tu sais. Puis en la lecture du livre, on n'a jamais reparlé... Mais j'ai senti il y a quelque chose. Puis pourtant, j'ai répété, puis je le répète encore, que mes parents, c'est elle puis mon père.
Mm-hmm.
Mais...
C'est... Oui, puis c'est pas les...
Ça reste...
C'est pas les seuls, tu sais. Je pense qu'il y a plusieurs parents adoptants qui vont être très heureux pour leur enfant, mais à quelque part, il y a une crainte de perdre leur enfant ou le lien privilégié parce qu'ils étaient comme les seuls...
Ouais.
figure parentale, puis là, c'est comme...
Oui, mais là-dessus, faut... Moi, en tout cas, moi, je l'expliquerai des fois aux parents adoptifs. La personne... Bon, si on parle d'un adopté qui retrouve sa mère, par exemple, tu sais, on prend des situations là, comme les nôtres, mm-hmm. là, où que tout est beau, tout va bien, puis on ne cherche pas une figure parentale.
Ben, non, c'est ça.
Pas ça du tout, mais pas du tout, là, tu sais. Puis le lien qui s'établit entre le parent biologique et l'adopté, et le parent adoptif et l'adopté, c'est complètement deux choses différentes, là.
Parce que ce qu'on cherche, c'est des réponses, en fait.
C'est ça.
On cherche des réponses, puis moi, où j'ai senti... Bon, premièrement, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pour ma mère biologique, parce que pour elle... Elle va pouvoir finir ses jours rassurée.
Mm.
Moi, ce que ça a changé, c'est que j'ai une sœur que j'avais pas, que j'aurais aimé avoir. Fait que je fais pas de peine à personne. J'en ai pas de sœur. Fait qu'elle prend pas la place de...
Ouais.
C'est ma sœur. Puis tu sais, c'est ma demi-sœur, mais c'est ma sœur. Moi, je dis que c'est ma sœur. Puis on se ressemble. On a comme... Puis c'est pour ça que je parlais de qu'on a le même genre de famille. On est à peu près... Eux autres, ils sont dans le baseball, là-bas, sur la côte ouest. Moi, on est dans Ringuette, puis le patatistique ici. Puis, tu sais, c'est le même genre
de vie que vous avez.
Bon, c'est des anglophones, mais tu sais, c'est le même...
mode de vie.
Même mode de vie, culture, même... Ouais. Même bon, moi, je suis pas très... Je capote pas sur la politique, ou je capote, mais peut-être pas.
On en a pas là.
Mais tu sais, on a à peu près les mêmes. On est dans les mêmes, parce que j'ose pas dire gauche-droite.
Ouais,
on est au même centre du spectre politique. On est, tu sais, c'est pas des ultra-conservateurs catholiques. C'est pas des ultra-gauches.
On
est sur la même longueur d'onde. On a la même. Fait qu'on peut se parler de tout. On est comme. Tu sais, ça coule bien, ça va.
Ouais.
Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression, puis c'est ça, moi, je cherchais des réponses, j'avais des questions sur, justement, l'abandon. J'avais pas, moi, j'ai jamais senti d'attachement à mon... tu sais, j'ai pas senti un... J'ai essayé, quand j'étais jeune acteur, j'étais arrivé à Montréal, dans les années fin 80, début 90, le deuxième référendum, tout ça, tu sais, c'est très... Le milieu artistique est très indépendantiste, souverainiste, Québec. Moi, j'ai jamais filé ça, tu sais. Puis je me sentais un peu mal parce que je faisais... J'ai comme pas cet attachement-là, même avec le Canada, tu sais. Je trouve le Québec beau, je trouve le Canada beau. Moi, je suis comme... Mais là, j'étais comme... je peux pas dire ça, je me sens pas bien. Mais moi, j'avais une fascination, un amour énorme pour les États-Unis depuis que j'étais petit bonhomme. Je me rappelle, à 3-4 ans, dire « Moi, je voudrais être Américain.
»
C'est donc bien drôle.
3-4 ans.
Ouais.
Puis à un moment donné, je me dis, c'est parce que j'aime le cinéma américain, j'aime la littérature américaine, tu sais, c'est ça qui m'a... Puis j'ai appris que mon père et ma mère, c'est des Américains. Je suis Américain techniquement. J'ai été conçu en Arizona, tu sais. J'aurais été comme super Américain, là, mais bon, ça fait pas de moi.
Oui,
mais j'ai un amour.
Il y a...
Puis ça, je trouve ça bien étrange parce que, tu sais, on...
Ça s'explique pas.
C'est pas dans l'ADN, en tout cas. Peut-être quelque chose.
Ouais, c'est de l'inné, ça. Ouais, c'est comme...
Parce que je me rappelle, même au secondaire, on avait des cours, puis un cours, je pense que c'était un cours d'économie ou je sais pas trop, puis la prof, elle parlait, ou un cours d'histoire, puis le prof parlait, disait, si vous voyagez plus tard, puis vous avez sur votre sac à dos un écusson du Canada, vous allez être reçu partout comme il faut, puis si vous avez une écusson des États-Unis, vous allez être regardé de loin, les gens n'aiment pas les Américains, puis tout ça. Puis ça me fâchait. J'étais en secondaire 4, 5, je savais pas, moi.
Alors que...
C'est le pro qui dit ça, c'est bien bête. Les États-Unis, c'est cool, c'est chill. Bon, Trump, c'est pas cool. Mais il y a des affaires pas cool, comme il y a des affaires pas cool dans tous les pays. Là, mais...
Est-ce que, tu sais, on a parlé beaucoup de votre mère, votre sœur, votre père... Là-dedans, est-ce que là, une fois que vous avez recréé déjà des liens, est-ce que vous sentez que c'est correct, vous n'avez pas besoin de plus ou...
Bien, en fait, c'est un peu plus complexe parce que j'ai un demi-frère que je sais qu'il existe parce que vous avez parlé tantôt de l'ADN, mais je vais faire juste une parenthèse là-dessus. Moi, j'ai fait les tests, j'en ai fait deux, en fait.
Okay.
Moi, c'était pas tant pour retrouver directement, c'était pour voir c'était quoi mes origines... ethnique. Donc j'ai fait Ancestry puis j'ai fait MyHeritage. Pourquoi j'en ai fait deux? Parce que je m'étais fait dire tout le monde reçoit les mêmes résultats puis c'est de la foutaise. Fait que, fait que j'en ai fait un deuxième pour voir. Et les deux ont sensiblement donné le même pourcentage d'ethnicité. Donc moi je suis irlandais. Europe de l'Est, vraiment tout décortiqué là-dedans. Là. Les deux, c'est à peu près semblable. C'est Irlandais qui est au-dessus. Ma mère est Irlandaise.
OK.
Mon père, d'après le nom que j'ai, il est Irlandais, Écossais, Europe de l'Est. C'est un peu plus... ça peut englober... mais ça semble être plus Europe de l'Est, Pologne. Et moi, j'étais sur Ancestry, j'étais comme branché sur le réseau canadien. Donc, j'avais pas de... Il n'y a rien des États-Unis qui remontait dans mon... Dans mes cours,
dans les messages, résultats,
tout ça, ouais. dans mes résultats. C'était assez... c'était vraiment comme des petites grenouilles par-ci, par-là. Et quand j'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit le nom de mon père. Et elle m'a raconté toute l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. Il devait se séparer, histoire classique. Il avait un bébé d'à peu près un an. Ma mère est tombée enceinte. Elle travaillait dans un poste de police. Lui, était policier. Et elle a perdu sa job. Bon, elle est venue. Pourquoi elle est venue à Chicoutimi? Parce que son frère était dans la US Air Force. Il était basé à Bagotville. Pour le temps, à cette époque-là. Donc, elle pouvait juste aller chez son frère. Puis c'est pour ça qu'elle est partie de l'Arizona pour aller accoucher à Chicoutimi. Et à un moment donné, j'ai changé les paramètres de mon compte Ancestry, puis je suis tombé dans le compte américain. Puis je suis allé j'ai payé pour le package mondial ou je sais pas trop. Là.
Ouais.
Puis, parce que j'avais une cousine du côté de ma mère qui, elle j'avais popé, puis elle se demandait, c'est qui, lui, qui est comme... Okay. Ça marque, tu sais, le pourcentage de...
Ouais,
des correspondances,
segments,
là, ouais, donc, c'est ça.
Fait, j'ai un cousin qui s'appelle Patrice Godin, c'est quoi ça?
Sort d'où, lui?
Elle ne savait pas que sa tante avait eu un fils. Donc là, ça a popé. Puis, mon demi-frère, il a le nom de mon père.
OK.
Il pop.
Non.
Il est là.
C'est vrai?
Oui. Ah. Il est là. Lui, il semble être sur Ancestry depuis 2006. Il a pas d'arbre généalogique, il n'y a rien. Il est allé là pour quelque chose. Il n'a pas fait le test d'ADN parce qu'on est branché. Puis le segment que ça donne, c'est demi-frère.
Demi-frère.
Puis là, vous allez me dire, j'aurais pas. Mais j'ai écrit deux messages, en fait, parce que là, je l'avais là. Fait que j'ai fait, ben écoute, regarde, visiblement, si moi je te vois, tu me vois.
Je te dirais pas, t'aurais pas dû, non, t'as bien fait.
J'ai écrit un message pour lui dire. Puis il a pas. Je crois qu'il l'a vu, il a pas répondu. J'en ai envoyé un second, comme quasiment 6-7 mois plus tard, en disant, regarde, je vais pas t'harceler, c'est la dernière fois que je t'écris, je fais reprendre chance. Je suis pas là encore, j'ai dit la même affaire, je suis pas là pour venir demander quoi que ce soit. Je veux juste connaître mon histoire. On semble être assez... J'ai même pas dit qu'on semble être demi-frères. On semble assez, assez liés, là, tu sais.
Ouais.
Et donc, lui, je sais pas c'est quoi... selon ma mère, mon père est décédé.
Okay.
Ça, c'est clair. Lui, mon demi-frère, puis j'ai retrouvé sur Facebook, c'est-tu lui? J'ai fait une demande d'amis, mais ça remonte encore là à 7 mois, puis il n'a pas donné suite.
Il
semble pas y aller très souvent non plus, cela dit.
Ouais.
Fait que moi, je reste ouvert, mais en même temps, c'était vraiment la mère qui était pour moi, qui importait beaucoup, beaucoup. Je pense que
En général, c'est ça.
Le père, ça serait un plus de connaître un peu mon histoire par rapport à ça, puis de savoir qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Puis... Mais, tu sais, je vois pas... puis c'est ça, je vois pas l'aller harceler, là, mon demi-frère. Il a vu les messages, il sait qu'il est là, il est sur Ancestry. Il sait où me trouver, j'ai dit, garde sur Facebook, tu vas voir, là, va, mon nom, puis tu vas voir que je suis pas une bibitte à patate.
Oui, fait que c'est peut-être une fenêtre qui va s'ouvrir.
Peut-être qu'un jour... Moi, je suis ouvert à ça, mais encore là, comme vous dites, tu sais, je sais pas, moi, c'est... quoi sa vie, ça semble être, il semble être un gars correct. Puis il n'y a pas tant de photos que ça, puis il n'y a pas de... Il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux à ce que je vois. Mais tu sais, c'est quoi? C'est un bizarre?
Non, mais il a peut-être juste fait son ADN, lui, pour une question de généalogie ou d'ethnicité, tu sais, comme...
Oui.
Comme plusieurs
ou peut-être qu'il savait...
Peut-être qu'il ne sait pas que tu existes, peut-être qu'il le sait aussi, là, ça. Bon, on ne le dit pas, mais je veux dire, il n'est pas fou. Il a vu la correspondance, il doit être capable de lire demi-frère, là. Fait que ça l'a peut-être... peut-être freiné, là, tout simplement, là, je veux dire. Mais je pense que t'as bien fait de lui ouvrir la porte.
Oui, ben, c'est ça.
Puis là, la mère, à quelque part.
C'est ça. Fait que là, si lui répond à ça, ben tant mieux.
Il y aura peut-être une suite.
Ça va venir boucler la boucle.
C'est ça, on verra.
Peut-être pour terminer, on entend quand même de plus en plus les personnes adoptées sur la place publique parler de différents enjeux justement reliés à l'adoption et dont ce fameux enjeu ou cette fameuse expérience des retrouvailles. Est-ce que, Patrice, est-ce que pour vous c'est important de partager votre histoire? Là, vous dites que vous l'avez écrit dans un livre, donc bon, je vais en parler. Mais est-ce que sinon, c'est quelque chose que vous auriez abordé?
Bien, j'en aurais peut-être pas parlé, non, je pense pas que je... Pas par honte ou absolument pas, je suis pas quelqu'un qui a... Jusqu'à maintenant, avant que je me mette à écrire des livres, puis que sur les 5 que j'ai écrits, j'en ai écrit 2 qui parlaient beaucoup de plus personnel, là, plus directement de moi. C'est pas quelque chose que j'aurais abordé tant que ça. J'en ai déjà parlé à l'émission de José Lito là, dans le train, là, il y a quelques années. Mm. C'est là que je pense que c'est la première fois que j'avais dit que j'étais adopté. Mais d'habitude, je suis assez secret sur les choses de ma vie. Puis c'est pas une question que j'avais de la honte par rapport à ça. C'est juste... Mais quand je l'ai écrit dans mon livre, parce que je le vivais, j'étais là-dedans, je l'ai écrit dans le livre, c'est sorti. Mais après, ça me dérange pas d'en parler. Puis d'être ici avec vous, puis d'en discuter, puis de rencontrer des gens, puis d'échanger. J'ai eu des commentaires aussi j'imagine. De gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, puis qui m'ont partagé des histoires, puis je trouve ça super, super le fun. Il y a comme des émissions de télé qui, à un moment donné, quand ils ont su que j'allais rencontrer maman, qui voulait nous accompagner, puis tout ça, puis il a fallu mettre un break, là. Il a fallu faire... Tu sais, moi, je suis pas d'un show télé-réalité,
ouais.
là.
Ouais.
Puis je veux pas l'être non plus, là, tu sais. Mm-hmm. Je suis pas... Je suis pas un gros fan de ça. Ça fait que pour moi, ça, il y avait vraiment une ligne à pas franchir. Je serais prêt à animer une émission sur l'adoption, mettons, ou des gens qui se disent, mais moi, je veux pas que débarquer avec les caméras chez ma mère, puis tout ça. Puis ça, c'est
hors de question. Non, ça t'appartient.
Ça, c'est...
Ouais.
Fait que, tu sais, moi, je trace une ligne par rapport à ça. Maintenant, d'en parler avec les gens, puis de le dire, j'ai pas de problème. Mais si j'avais pas écrit un livre là-dessus... Bien, j'ai pas écrit un livre là-dessus, mais si j'en ai pas parlé dans un livre, j'en parlerais probablement bien moins. Puis les gens m'en parleraient aussi moins, parce que...
Parce que c'est sûr qu'en en parlant, justement, c'est sûr que vous avez dû avoir un impact pour plusieurs personnes adoptées qui étaient peut-être comme vous, pas nécessairement intéressées par les retrouvailles. Caroline, est-ce que ces témoignages-là de personnes adoptées, est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que vous voyez justement à quel point ça peut avoir un impact?
Bien, absolument, je trouve que c'est très important, mais encore là, ça appartient à chacun, là, je veux dire, de vouloir le faire ou pas. Mais oui, quand on a des témoignages, puis pas nécessairement juste des beaux, parce que la réalité n'est pas toujours belle.
Oui.
Puis c'est ça, bon, nous, on a des émissions là, qu'on fait à la, en tout cas sur SoundCloud une fois semaine, et souvent, c'est des témoignages. Et les histoires diffèrent vraiment d'une à l'autre. On passe de la moins belle à la plus belle, puis bon, ben des choses entre les deux. Mais c'est important d'en parler parce que les gens qui écoutent ne se sentent pas seuls. Tu sais, des fois, on entend dire « Ah, oh, mais je pensais que c'était arrivé juste à moi, là. Je pensais que cette histoire-là, ça pouvait pas arriver ailleurs. » Ben oui, ça peut arriver, tu sais. Fait que oui, c'est important d'en parler, mais c'est sûr qu'on va, faut pas aller tordre les bras des gens non plus, là.
Mm-hmm.
Mais oui, absolument. Puis nous, on le voit aussi au mouvement Retrouvailles. Des fois, on a des téléphones, puis « Ah, ben j'ai entendu telle histoire, puis ah, tiens, c'est venu me chercher, puis ça a été mon déclencheur,
ouais.
Tu sais. Ça a été « OK, on va y aller. » Puis bon, là, ils viennent chercher de l'information, de l'accompagnement, de l'aide et tout ça. Fait que c'est vraiment, oui, important d'en parler autant pour l'adopter que la mère biologique ou le père biologique. On parle moins du père, effectivement, mais ben souvent, il y a bien des pères qui ne savent pas.
Oui,
effectivement.
Mais s'il y en a une qui le sait, c'est bien la mère. Et pour les parents adoptifs aussi, d'en entendre parler, des témoignages, justement, de personnes adoptées qui viennent dire pourquoi ils font des recherches. Fait que, tu sais, ça va les rassurer
ça rassure,
aussi. Là.
Oui, mais il n'y a pas peur parce que c'est pas...
Non, absolument pas, là. Non.
Oui, parce que c'est ça, en terminant, on revient aussi aux parents adoptifs, là, cette peur-là. Fait que je pense que justement d'entendre différents témoignages puis de voir que ça peut se passer de plein de façons, mais que dans la majorité des cas, c'est rare que les parents adoptifs sont écartés de la vie de l'enfant une fois qu'il y a des retrouvailles, honnêtement.
Puis ça, c'est autant au niveau national qu'international. Mm-hmm. Là, tu sais, l'adopté qui arrive de Chine ou de la République dominicaine ou peu importe. Il va vouloir trouver ses origines, mais ça n'enlève rien à ses parents adoptifs.
Mm-hmm.
Pas du tout.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose de très drôle parce que... Bien, il est très drôle. Quand je suis allé avec ma sœur, puis à un moment donné, elle m'a fait un peu visiter. Puis bon, son père était militaire, était police militaire. Ils ont vécu sur les bases militaires, puis ils ont vécu dans des maisons de militaires, qui c'est vraiment des tout petites maisons.
Ouais.
Et moi, j'ai grandi à la campagne, au Lac-Saint-Joseph. J'ai grandi dans une belle maison. C'était pas un château, là. C'était une maison très... C'était une belle maison, mais très simple, mais sur le bord de l'eau, avec un lac, puis l'accès au lac, puis le bois en arrière, puis tout ça. Et à un moment donné, on se promenait, puis ma sœur, je veux pas dire exactement où ils sont en Colombie-Britannique, mais c'est très beau où ils sont. Puis, ben là, on se promène, puis là, elle fait « Ah, là, elle monte la maison, tu sais. » Mais là, j'ai vu la maison, puis j'ai fait « OK, je me suis comme transposé, puis j'ai fait « J'aurais vécu là pendant... » Elle n'a pas vécu là pendant si longtemps, mais mettons 5-6 ans. Puis là, tout de suite, j'ai comme eu un comparatif dans ma tête, tu sais. J'aurais eu sûrement une belle vie pareille, parce que, comme je dis, tu sais, c'est le même genre de... J'aurais eu une autre vie, ça aurait été différent, mais en même temps, je faisais « je changerais pas cette maison-là avec la maison que j'ai grandi, là, parce que pour moi, c'était ce que j'ai grandi dans un royaume, là, tu sais. J'avais une liberté ici. Elle avait aussi, mais, tu sais, il y avait comme une espèce de...
Ça revient à mon petit choc de valeur de tantôt, ça. Là.
Tu sais, si t'essayes de... Non, mais tu sais, si tu...
Te projettes, ou...
Ouais, t'essayes de mettre le balancier, de faire revenir le balancier, ça s'équivaut, ça veut pas dire... Tu sais, la maison, c'était pas que c'était pas un trou, mais c'est juste des petites maisons militaires où ils restent là, stand-by, parce que dans 2 ans, ils vont être chippés ailleurs, ou... Puis finalement, c'est quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ma mère, elle a dit, là, moi, je bouge plus, là. Ça fait que arrête de... Puis à partir de cette maison-là, là, ils ont acheté une maison plus loin qui était une vraie maison, puis ils sont installés là. Mais juste pour dire que, tu sais, t'as beau dire, ça aurait été le fun, j'aurais vécu ici, puis tout ça, puis là, t'arrives, tu sais, attends une minute, là, tu sais.
On peut idéaliser
plein d'affaires, mais tu sais, reste que, tu sais, ce que t'as eu, puis moi, je changerais pas mon enfance que j'ai eue pour une autre, là, tu sais. Il y a des affaires que je changerais dans ma vie comme tout le monde, et des affaires que je ferais pas, en fait. Ou des agissements que j'ai eus, ou j'ai pris des chemins que j'aurais pas dû, ou whatever, mais je changerais pas mes parents, je changerais pas ma vie, je sais pas où j'ai vécu. Là.
Ouais. Non, puis le fait aussi de je veux pas tirer l'émission pour rien, mais le fait de... Tu sais, t'as grandi, tu l'as toujours su. Si on a un message peut-être à passer aux parents adoptifs aujourd'hui, c'est bien important de le dire.
Oui.
Parce qu'il y a encore régulièrement, j'ai des appels de gens... pas plus tard que la semaine dernière, un monsieur, 55 ans, sa mère vient de décéder et il découvre qu'il est adopté.
Ah, ça va être...
Ça, c'est l'enfer. Donc, moi, j'ai un message à passer aux parents adoptifs, autre que le fait de retrouver nos origines. Là, ça leur enlève rien, mais dites-le, vaut mieux tard que jamais. C'est sûr que 50 ans, c'est pas le meilleur âge, mais c'est vraiment important là, de le dire pour que les gens l'apprennent au décès, là.
Mais merci beaucoup à vous deux pour cette belle discussion et au plaisir.
Ce balado est une production du Comité de concertation Adoption Québec. Ont collaboré à cet épisode Patrice Godin et Caroline Fortin comme invités, Maritza Bossé-Pelchat à l'animation, Léa Villalba à la recherche, Louis-Philippe Labrèche à la voix, la coordination de production et la production déléguée pour le compte de la coop de contenu, et Hugues Bouchard à la réalisation pour le ministère. Merci à Joanne de la Mirande de Fontaine de la Mirande, agent artistique. Suivez-nous pour découvrir des histoires d'adoption de nos autres invités sur votre plateforme de balado préférée.